la colonne s'ébranlait. Et vous vous souvenez peut-être, c'était à la fin du chapitre 10, la grande prière de Moïse. Moïse disait, lève-toi Éternel et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on l'a reposé, l'arche, il disait, reviens Éternel aux myriades des milliers d'Israël. Et là, nous allons voir que, bien qu'ils étaient complètement préparés, équipés, ils sont guidés, je vous le rappelle, par la nuée, qui est une nuée de fumée dans la journée, une nuée de feu ardent la nuit. Et pourtant, nous allons voir que c'est dès le départ, il y a des problèmes. Lisons les trois premiers versets du chapitre 11. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'apaisa. On donna à ce lieu le nom de Tabehéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Premier péril qui nous guette. C'est un esprit de murmure, un esprit de plainte. Tout d'abord, j'aimerais préciser, là on a l'impression que d'un seul coup l'Éternel se met en colère. Rappelons-nous que Dieu ne change pas. Il n'est pas là à dire, je vais essayer de les aimer. Et puis à la première bêtise, il dit, bon, ben, c'est fini, là maintenant on va sévir. Donc nous savons que il n'y a pas d'ombre de variation dans le Père des Lumières. Pas d'ombre de variation ni de changement, comme il dit dans Jacques. Dans Hébreu, Jésus il dit et le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Donc ces apparents changements d'humeur de Dieu c'est une façon imagée qu'il a de nous parler de nos comportements. Parce qu'il se met à la place d'un homme qui verrait des comportements pareils. Et il décrit les sentiments et les actions qu'il mériterait. Il décrit, il describe. Et donc, l'Éternel entend le peuple se plaindre. Et cela lui déplaît. Il n'y a pas de raison précisée. Mais est-ce que ce n'est pas souvent le cas lorsque nous nous plaignons ou nous rouspétons? La chose que nous devons réaliser, c'est que Dieu est toujours sur le trône. Dieu est souverain. Et ça veut dire qu'il contrôle nos circonstances. Ce qui veut dire que quand nous nous plaignons de nos circonstances, ça veut dire que nous nous plaignons de Dieu. Et Dieu fait tout pour nous. Paul, dans Romains, nous dit que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même que lorsque nous ne comprenons pas la difficulté de nos circonstances, Dieu a tant fait pour nous qu'il attend qu'on lui fasse confiance. On peut souffrir. On peut être dans des circonstances terribles. Mais il veut que nous rappelions qu'il est toujours sur le trône. Et il nous répète sans arrêt dans la parole d'avoir un cœur plein de reconnaissance. En toute circonstance, rendez grâce, dites merci. Pourquoi ? Parce que telle est à votre égard la volonté de Dieu. Rendez grâce, soyez reconnaissant. Paul nous dit même, ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Who perished through the exterminator, 1 Corinthians 10:10. Paul nous dit, faites tout sans murmure ni discussion. Alors sachez que lorsque je vous dis ces paroles, le Seigneur me parle. Combien de fois est-ce que je rouspète ? Combien de fois est-ce que je souhaiterais que mes circonstances soient un peu plus différentes ? Un peu plus faciles ? Oh non, Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais tomber une chose pareille dans ma vie ? Mais le Seigneur est bon. Il dit que sa colère s'enflamme, le bout du camp est dévoré par le feu. Et le peuple se tourne vers Moïse. Moïse prie l'Éternel. Et le feu s'apaise. C'est un peu, vous savez, lorsque vous avez quelque chose qui chauffe sur le gaz. Les femmes sont hautes. Puis on tourne le bouton du mauvais côté ou on veut baisser un peu. Mais on tourne du mauvais côté et tout s'éteint. Les flammes retombent comme ça. C'est ce que ça veut dire. Le feu s'apaisa, il tomba d'un seul coup. Et puis on donne à ce lieu le nom de Tabeera, qui veut dire embrasement. Et c'est bien de mettre un nom comme ça pour se rappeler de ce qui s'est passé. Peut-être que dans votre vie aussi, il y a eu des moments où vous êtes plaint et les choses ne se sont pas arrangées par vos plaintes. Le Seigneur a mis le feu dans votre vie. Rappelez-vous de ces moments lorsque vous êtes prêt à vous plaindre et à gémir et à murmurer. On pourrait penser qu'ils ont appris leur leçon avec ce feu, ce nom de lieu donné à cet endroit. Mais on va voir maintenant un deuxième péril, un deuxième danger qui les guettait et qui nous guette. C'est le danger de la convoitise, de vouloir toujours plus, de n'être jamais satisfait. Combien de gens ont gagné le loto ou la loterie ? Ils ont tout perdu en essayant de jouer encore. Lisons ensemble à partir du verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises. Et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Ce nom de ramassis, ça veut dire les gens qui se trouvaient là, qui n'auraient peut-être pas dû être là. D'autres traductions parlent d'une multitude mélangée. C'était des, sans doute des gens qui, étaient issus de parents, d'un parent juif et d'un parent égyptien. Ou même d'autres races qui n'étaient pas bien sûrs s'ils devaient rester en Égypte ou s'ils devaient suivre les Israélites. Et c'est eux qui vont commencer à mettre la pagaille avec cette convoitise qui les remplit. Quelle est l'application pour aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a ce que la Bible appelle des chrétiens charnels. Ce sont des chrétiens qui ont peut-être fait une profession de foi pour Jésus-Christ. Mais ils veulent toujours vivre dans le monde. Le dimanche, ils peuvent se mélanger aux chrétiens. Mais le reste de la semaine, ils se mélangent au monde. Ils ne sont pas vraiment sûrs si on leur demande d'être nés de nouveau. Ils ont un peu, comme qui dirait, un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Quelqu'un a même dit, ils ont trop de Christ en eux pour être bien dans le monde. Et trop de monde en eux pour être bien dans leur peau avec Christ. Et c'est eux qui vont influencer les Israélites qui vont commencer à se plaindre. Aujourd'hui, c'est peut-être les gens qu'on voit plutôt au pique-nique, aux études bibliques. Les gens qui préfèrent se retrouver pour un repas plutôt que pour une réunion de prière. Et en général, ils ne sont pas devant, ils sont à l'arrière. Rien de personnel ni de physique. Question de marcher loin derrière Christ pour être prêt à repartir facilement dans le monde. Peut-être des gens qui ont une soif spirituelle, mais ils ne sont pas prêts à suivre la croix. Et à la moindre difficulté, ils repartent en arrière. Verset 5. Les Israélites commencent donc à pleurer, à gémir en disant « Qui c'est qui va nous donner de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux et elle avait le goût d'un biscuit à l'huile. Quand la rosée descendait de nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans son clan à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement et cela déplut à Moïse. » Nous allons nous arrêter là. C'est intéressant comment Satan peut nous donner une mémoire sélective. Il se rappelle des poissons, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, l'ail. Il se rappelle même que c'était gratuit. Mais ils oublient qu'ils étaient des esclaves. qu'ils n'avaient pas d'argent et n'étaient pas payés. C'est la nourriture qu'on leur donnait pour leur permettre de subsister. Et en tant qu'esclave, on peut douter du fait qu'il y ait eu souvent du poisson ou de la viande servie. Ils ont complètement oublié les fours à briques, les coups de fouet qu'ils recevaient. Et est-ce que nous, on ne fait pas ça aussi? Il y a des fois, on se dit, « Ah, je me rappelle le bon vieux temps. » Quand j'étais pas chrétien, je pouvais aller me promener le dimanche matin, faire des randonnées. Je pouvais aller voir le genre de film que je voulais. Mais on oublie l'esclavage. On oublie la peine. On oublie l'absence de sens à notre vie. On oublie le désespoir. Ah, mais les concombres et les poireaux. Une chose est terrible, c'est qu'ils, eux comme nous, ils se plaignent de la provision du Seigneur. La manne, ils en ont ras-le-bol. Vous vous souvenez de ce que c'était que la manne? C'est dans l'Exode. On peut s'y tourner pour rapidement. Verset 15 du chapitre 16 de l'Exode, page 72. Le Seigneur leur avait promis de les rassasier de pain. Et en se levant le matin, il voit quelque chose de granuleux, comme du givre sur la terre. Et ils demandaient, qu'est-ce que c'est? En hébreu ou araméen, c'est man, mana ou manou. D'où le nom de man. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la man? Man means, what is it? Et Moïse leur répond, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est qu'il explique que chacun doit recueillir lui-même sa nourriture. Il faut juste en prendre pour soi et les siens, sa famille. Ceux qui en avaient récolté beaucoup pouvaient le donner à ceux qui n'en avaient pas assez. Et il fallait tout consommer, ce qu'on avait ramassé. Il y en avait qui la laissaient. Ils disaient, on ne sait jamais, demain matin, peut-être que j'aurai faim avant que je puisse me lever, je vais en garder. Et cette nourriture se pourrissait. Une autre prescription, c'était que le jour que le Seigneur leur demandait d'observer de repos, le sabbat, ils ne devaient pas en ramasser le jour du sabbat, ils devaient en ramasser une quantité double la veille. Et ce jour-là, la manne se conservait jusqu'au deuxième jour. Et donc, la manne, c'était leur nourriture, leur subsistance au désert. C'était une nourriture parfaitement équilibrée, puisque ça leur a permis de vivre sans attraper les maladies comme le scorbut, des maladies liées à la nutrition. C'est vrai qu'à l'époque, quelques-uns vendaient des livres qui s'appelaient « 101 recettes pour accommoder la manne ». On pouvait préparer la manne frite, la manne lorraine, La manne niçoise. En salade. Soufflé. C'est l'origine du popcorn. En purée, en gratin, j'en passe des meilleurs. Ils en avaient ras-le-bol. Et pourtant, il y avait 45 000 tonnes de manne qui tombaient tous les jours. C'est l'évaluation. On se dit qu'il devait y avoir 45 000 tonnes et le vendredi, il y en avait 90 000 tonnes qui tombaient. A lot of manna. Beaucoup de manne. Et c'est vrai que le goût de la manne, on dit que c'était un goût un peu comme du miel, le goût de la graine de coriandre. Elle avait un goût d'un biscuit à l'huile. Mais ce qui comptait plus dans la manne que son goût, c'était son message. C'était d'abord un rappel de la provision divine. Dieu pourvoyait à leurs besoins. Mais c'était aussi un type, vous vous souvenez de ce mot de type, une préfiguration de la parole de Dieu. Jésus avait dit dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons besoin de manne chaque jour. On ne peut pas garder la lecture de la veille pour nous soutenir le lendemain. Vous pouvez lire doublement la veille du dimanche pour faire vos 7 lectures et venir le dimanche sans avoir à lire, c'est peut-être. Mais l'idée, c'est que la Bible, c'est comme une médecine préventive. Ça va nous donner les éléments nutritifs qui vont nous permettre de résister aux agressions de la journée, de travailler pour le Seigneur, d'avoir une vie pleine et remplie, pleine et heureuse, je veux dire. Et si vous vous souvenez, cette manne, Jésus l'a utilisée lui-même. Lorsqu'il a été tenté par le diable, Jésus n'a pas chanté un cantique pour lui résister. Lorsqu'il a été tenté par le diable, Jésus n'a pas prononcé des paroles en langue. Lorsqu'il a été tenté par le diable, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a cité la parole de Dieu. Aux États-Unis, les églises Calvary Chapel ont grandi rapidement. Et il y a beaucoup de spécialistes qui sont penchés sur quelles sont leurs méthodes. Et la réponse, c'est la manne. Il y a beaucoup d'églises là-bas qui essayent d'ajouter des épices pour attirer du monde, pour faire parler d'elles. Mais la seule chose qui va faire grandir l'église, c'est la manne. Le Saint-Esprit prenant la manne pour nous révéler Jésus et son plan pour nos vies. Et en fait, il valait mieux la manne et la liberté qu'ils avaient que ces nourritures épicées en tant qu'esclaves. Mais encore une fois, nous nous oublions l'esclavage du péché. On oublie les gueules de bois après les soirées de cuite.
We forget how people had a hangover after a rough night.
Et on va voir qu'ils sont gloutons. Glutton. On va se remplir jusqu'à en être malade. C'est vrai avec la nourriture. C'est vrai avec l'alcool. C'est vrai avec la drogue. C'est vrai avec l'immoralité. La chair, par nature, est toujours insatisfaite. Mais le message de la manne, c'est aussi le message de Jésus-Christ. Tournons-nous ensemble à Jean 6, 31. C'est une confrontation entre les Juifs et Jésus. Et les Juifs lui disent: nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. C'est le verset 31 du chapitre 6, page 110 dans la Bible bleue. Selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit: moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et la question que je vous invite à vous poser ce matin, c'est: est-ce que je suis satisfait de la manne? Est-ce que Jésus-Christ répond à mes attentes dans ma vie? Est-ce que Jésus est la réponse à mes besoins au quotidien? Ou est-ce que vous pensez qu'il faille ajouter un peu des épices dans votre vie? Et vous vous dites: oui, c'est bien beau, on est là ce matin. On ne peut pas passer toute la journée à penser à Jésus-Christ et les choses célestes. Il faut bien des moments de récréation. Mais la question, c'est: comment supporterez-vous le paradis? Est-ce que chez moi, les magazines sont plus utilisés que la Bible? Est-ce que la musique chrétienne, c'est bien, mais de temps en temps un bon vieux chant séculaire, est-ce que ça me donne pas un peu de punch? Et quand je suis fatigué, je préfère me mettre en face de la télé et voir Patrick Sébastien m'amuser plutôt que de me tourner vers Christ, vers sa parole, œuvrer pour lui, l'avoir devant moi à tout moment. Et je crois que le grand danger, c'est surtout pour nous tous, bien sûr, moi le premier, c'est de ne pas se satisfaire de la manne de Christ. Et c'est particulièrement dangereux pour les jeunes, pour les enfants. Ils sont entourés par tous ces plaisirs, par toutes ces épices. Et ça aussi, ils veulent y goûter. Ils ne veulent pas nous croire quand on leur dit que ça ne satisfait pas. Ils veulent y goûter eux-mêmes, connaître les plaisirs du monde, peu importe si les souffrances viennent après. Et c'est vrai que je dois me poser la question dans ma vie: est-ce que, après avoir fait une étude biblique, je vais dire: tiens, maintenant je vais prendre un moment de détente et faire quelque chose d'autre?
Even after a Bible study, do
Quelque chose qui exclut Dieu.
Something which totally excludes God.
Et un peu comme nous l'avait enseigné Pat Lazovich.
And a bit like Pat Lazovich had taught it.
Il y a des choses qui ne sont pas mal en soi, en elles-mêmes.
Some things aren't bad in themselves.
Mais est-ce qu'on choisit la chose qui est la meilleure?
Do we choose that which is the best?
Est-ce qu'on choisit de s'occuper toute la journée, le temps où on a un contrôle, bien sûr, au travail, si vous devez être vigilant, vous n'allez pas commencer à sortir la Bible et laisser la centrale nucléaire marcher toute seule, si c'est votre travail. Mais à quoi pensez-vous lorsque vous n'avez rien à penser? Qu'est-ce qui remplit votre cœur? Jésus est là pour tout satisfaire. Amen. Continuons, verset 11. Moïse dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas obtenu ta faveur que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré pour que tu me dises, porte-le sur ton sein? Trop lourd pour moi. Et là, on voit que Moïse va se plaindre à son tour. Il se supporte d'avoir supporté ces milliers de personnes, ces millions de personnes. Il se demande même où c'est qu'il va trouver la viande qu'il lui réclame. Moïse n'en peut plus. Il entend les bruits. Les cris. Moïse de la viande. Moïse de la viande. Il n'en peut plus. Il veut même se suicider. Le verset 15 nous dit, il craque. Plutôt que de me traiter ainsi, demande-t-il à Dieu, tue-moi donc. Si j'ai obtenu ta faveur et que je n'arrête pas ma vue sur son malheur, et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur, il veut pas voir la situation, il préfère être emporté. Quel est le péril de Moïse? Il compte sur lui-même au lieu de compter sur Dieu. Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Moïse, son problème, c'est qu'il a pris tout le fardeau sur lui. Et nous pouvons aussi faire la même chose. Peut-être que vous dites, ma famille, c'est moi qui dois porter tout le poids. Au boulot, c'est moi qui dois tout faire. À l'église, c'est moi qui fais tout. Non, Dieu nous dit, vous n'êtes pas seul, c'est Dieu qui doit faire l'œuvre. Il est plus important de cultiver notre relation que de cultiver nos actions. Vous vous souvenez d'un autre grand personnage de la Bible qui a craqué aussi comme ça, qui voulait se suicider? C'est le prophète Élie. Il avait remporté cette grande victoire contre les prophètes de Baal. Il avait entendu que Jézabel lui disait qu'elle allait la voir. Et là, il avait dit, c'en est trop, maintenant Éternel, prends ma vie. Mais le Seigneur avait envoyé un ange pour le restaurer, l'encourager. Et nous allons voir que Dieu va aussi envoyer de l'aide à Moïse. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages, où c'est qu'on les retrouve ? Je crois qu'on les retrouve comme les deux témoins dans l'Apocalypse. Mais on les retrouve avec Jésus sur le monde de la Transfiguration. Donc c'est ok d'être des fois déprimé. Ce qui est mal, c'est de ne pas accepter l'aide du Seigneur. Il nous faut apprendre ses leçons. Et Dieu va répondre gracieusement à Moïse en lui envoyant un groupe d'anciens. Lisons, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple, amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y tiennent debout avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, oui, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et qu'elle vous soit indigeste. Parce que vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Deux choses. 70 anciens d'Israël, c'est le début du Sanhédrin. On va retrouver ces 70 comme le Sanhédrin qui va condamner Jésus à mort. Je crois que Moïse, s'il s'était confié à Dieu et la force de Dieu, il n'aurait pas eu recours à ces 70. Mais Dieu savait que Moïse, ça le rassurait d'avoir des choses visibles, des gens qui pouvaient l'aider visiblement. Et il va mettre le même esprit qui était sur lui, il va le mettre sur eux. Et puis, vous connaissez la publicité, vous en rêviez, Sony l'a fait. Dieu dit, en veux-tu, en voilà. Vous en rêviez, Dieu va vous le donner. Il va accéder à leurs désirs de façon judiciaire. Et c'est des fois ce qui arrive dans nos vies. On prie pour avoir une chose que le Seigneur ne met pas dans nos cœurs. Et Dieu, parce qu'il veut forger notre caractère, il veut nous faire grandir. Il va peut-être finir par dire, tu le veux, je vais te le donner. Tu veux que ton entreprise devienne prospère financièrement? Eh bien, je vais te donner de l'argent. C'est l'argent qui va nous montrer que nous avons des priorités mal placées. Parce que le problème, c'est un problème de cœur. Ils ont méprisé l'Éternel en lui demandant cette viande. Ce qui est intéressant, ce qui suit, c'est que Moïse, on voit, il est toujours sur le problème technique. Il est toujours en train de se dire, comment je vais faire? Dieu parle d'un problème de cœur, lui est toujours obnubilé par le problème technique. Et verset 21, Moïse, lui, il fait son petit raisonnement, il dit, il y a 6000 hommes de pied qui forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu leur as dit, je leur donnerai de la viande. Ils en mangeront un mois entier. Il fait ses calculs, il dit, est-ce qu'on va égorger assez de menus et de gros bétail pour qu'il y en ait assez? Ou est-ce qu'on va rassembler pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'il en ait assez. Et verset 23, un verset clé. L'Éternel répond à Moïse, la main de l'Éternel serait trop courte, serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si oui ou non ce que je t'ai dit arrivera. Est-ce que votre Dieu est trop petit? Est-ce qu'il a des toutes petites mains? Ou est-ce qu'il a les mains de celui qui a mis en orbite les galaxies, les constellations? Est-ce que Dieu est trop petit? Est-ce que sa main est trop petite pour réparer votre mariage? Est-ce qu'il est trop, sa main trop petite pour vous aider à trouver du travail? Est-ce que sa main est trop petite pour vous guérir? Non, il est le Dieu tout-puissant, il a toute puissance. Verset 24, il est dit que Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla les 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée, lui parla, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. Le message, c'est que on ne peut pas servir Dieu sans la puissance de l'esprit. Serve God without the power. On peut servir Dieu en se basant sur notre personnalité. Il peut y avoir un pasteur qui est marrant comme tout. On peut servir par nos connaissances intellectuelles. On a fait 3 séminaires. 2 doctorats, un en Allemagne et un aux États-Unis. Si l'esprit n'est pas sur nous, nous sommes comme des gongs. On peut parler de nos relations, notre énergie, notre physique. Oh, je suis beau. Je vais attirer du monde. Les uns, c'est à leur char, les autres, c'est à leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. In the name of the Lord. Mm-hmm. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. C'est le secret de toute vie spirituelle. L'esprit. Ah, surprise. Le reste du passage nous parle de 2 hommes qui étaient restés dans le camp, Eldad et Médad, et aussi l'esprit était venu sur eux et ils prophétisaient. Et le jeune servant de Moïse, Josué, dont nous parlerons beaucoup plus tard, se dit, Seigneur, en parlant à Moïse, empêche-les. Et Moïse lui dit, tu es jaloux pour moi ? Verset 29, « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Verset 29, on voit la belle attitude de Moïse. Il ne recherche pas sa propre gloire. Il recherche celle de Dieu. Il se réjouit si d'autres sont appelés à servir Dieu avec puissance. Souvent une attitude qui manque chez les pasteurs. On a peur que l'autre ait plus de monde. Alors qu'on devrait se réjouir que le Seigneur lui a donné des dons et qu'il les utilise. Et finalement, le Seigneur va leur apprendre une leçon qui est aussi une leçon pour nous. Ils ont de la convoitise, il va satisfaire cette convoitise. Verset 31 à la fin, on voit que l'Éternel fait souffler un vent qui amène des cailles, des oiseaux migrateurs. Et il y en avait, là il est dit qu'il y en avait deux coudées où on pense que peut-être ils volaient à moins d'un mètre et qu'il était facile pour tout le monde de les attraper. Et puis, tout le jour, toute la nuit, le peuple se lève, ils suivent leur convoitise, ils sont là attrapés, on va s'en mettre plein la panse, on va en garder jusqu'à le plus possible, il n'y en a jamais assez. Et puis là, ils ont encore la viande entre leurs dents, il est dit, verset 33, même pas mâché. Et la colère de l'Éternel s'enflamme contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Et verset 34, on donna à cet endroit le nom de Kibroth Hattahava, parce qu'on y ensevelit le peuple rempli de désirs. De Kibroth Hattahava, le peuple partit pour Hatzeroth et s'arrêta à Hatzeroth. Cette plaie, on ne sait pas, c'était peut-être une intoxication alimentaire, une salmonellose, une caillose. Mais ce qui est intéressant, c'est le nom de cet endroit. Kibroth Hattahava. Kibroth Hattahava. Kibroth Hattahava. Je veux maintenant qu'on se rappelle ce mot, qu'on se le dise l'un à l'autre. Kibroth Hattahava. Ça veut dire les tombes de la convoitise. Les tombes de l'envie. Parce qu'on y a enseveli le peuple qui était rempli de désirs pour autre chose que pour Dieu. Kibroth Hattahava. Ça doit nous rappeler que notre vieille nature est toujours là, prête à vouloir plus. Qu'elle n'est jamais, qu'elle ne sera jamais satisfaite. Le désir pour les choses du monde ne peut déboucher que sur la mort. Alors que Dieu nous a donné la manne. La manne ou Kibroth Hattahava. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, le Kibroth Hattahava. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Prions. Seigneur, merci de nous avoir donné ces exemples qui nous servent de leçon aujourd'hui. Et combien, si nous sommes honnêtes, nous pouvons nous reconnaître dans ces Israélites qui veulent des épices. Ces Israélites qui ne se contentent pas du meilleur que tu leur as déjà donné. Seigneur, examine nos vies. Aide-nous à voir aussi ce qu'il y a dans nos vies. Ces appétits après les choses qui ne viennent pas de toi. Merci de nous rappeler que ces choses nous conduisent à la mort. La mort dans tous ses sens. La mort de la joie de vivre. La mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Seigneur, touche nos cœurs et apprends-nous à nous satisfaire de la manne de Jésus-Christ, de sa parole, de son esprit qui vient nous révéler ces choses. Seigneur, montre-nous que ce n'est pas se contenter que d'avoir la manne. C'est avoir tout ce dont nous pouvons rêver. Apprends-nous à être plein de bonheur en ta présence. Apprends-nous à centrer nos pensées sur toi. Sois le sujet de nos conversations. Sois celui auquel nous pensons le matin au réveil. Sois celui auquel nous pensons lorsque nous endormons. Montre que toutes ces autres choses ne sont que des mensonges venus de l'ennemi. Seigneur, parce que toi, tu es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Merci Seigneur de nous continuer à nous parler tout au long de cette semaine. Et Seigneur, grave ces mots dans nos cœurs de Kibroth Hatahava. Les tombes de la convoitise. Amen. Amen. Je vous rappelle donc des petits livres sur la prière à votre disposition, et aussi on mangera, alors je ne sais pas s'il y aura des oignons ou de l'ail la semaine prochaine, juste du pop-corn. Dimanche prochain, repas ensemble, repas d'église, et aussi si vous pouvez indiquer si vous êtes prêt à monter à la montagne pour une retraite spirituelle les 4, 5, 6 février. Que Dieu vous bénisse, vous remplisse et vous satisfasse en tout. Amen. Amen. Amen.